Le vendredi de 16h à 17h, FME Radio vous emmène au Film 20e siècle.
Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous dans 24e ciel sur FMR. Très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous du vendredi après-midi qui vous emmène au 24e ciel. Julien et Romain sont bien sûr avec nous. Comment ça va mon Julien?
Ça va très bien et toi comment tu vas?
Très heureux de vous voir, très heureux de te voir. Et toi mon Romain, tu vas bien?
Ça va super, nickel.
Alors qu'est-ce qui vous attend cet après-midi? On a du lourd aujourd'hui, hein. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Julien nous parlera Technologia avec les nouveaux appareils de Steam. Amis gamers, vous allez vous régaler. On continuera avec le saviez-vous, c'est un fun fact sur les sucettes choupa choups qu'on vous donnera aujourd'hui, si vous me permettez l'expression. Avec cette sucette, vous ne faites pas que sucer, vous achetez de l'art quelque part, je ne vous en dis pas plus. On parlera également sport automobile avec Romain qui nous parlera du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Puis on reviendra sur ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. Et enfin, Simon viendra nous parler de Cécifoot, le football joué par les aveugles et les malvoyants. Mais on commence maintenant avec les infos de la semaine. On part tout de suite pour Paris. Et en première classe, s'il vous plaît. Je le dis aux auditeurs, vous le savez, ici on est là pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous. On veut vous faire rêver avec le tout premier hôtel Louis Vuitton qui ouvrira prochainement ses portes sur les Champs-Élysées. Louis Vuitton, cette très célèbre marque de maroquinerie de luxe. Pour l'instant, c'est un décor en forme d'immense malle Vuitton qui recouvre la façade tout entière du 10311 avenue des Champs-Élysées à Paris. Alors, c'est pas qu'une publicité spectaculaire, hein, comme on pourrait le croire. C'est en fait le décor qui cache les travaux en cours du premier hôtel Louis Vuitton. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le groupe LVMH, qui est propriétaire de Louis Vuitton, reste discret sur leur futur établissement. Mais voilà quelques infos qu'on a pour vous qui nous écoutez sur FMR. On y trouvera sur environ 6000 m², un café, une chocolaterie, un spa, un espace d'exposition dédié aux collaborations artistiques de la maison, ainsi qu'une terrasse avec une vue magnifique sur l'Arc de Triomphe. Et bien sûr, une boutique cadeau Louis Vuitton. Alors, il y aura évidemment un restaurant gastronomique au dernier étage avec une vue à 360 degrés sur Paris. Assez original, un bar clandestin caché derrière une bibliothèque pivotante. Côté hébergement, il n'y aura pas plus d'une cinquantaine de chambres et de suites seulement, mais qui seront toutes différentes. Et pour celles et ceux que ça intéresse, l'ouverture est prévue en 2026. Romain, on en sait peu en vrai, de vrai, de vrai sur comment cet hôtel sera. Qu'est-ce que t'attends toi dans un hôtel de luxe?
Vraiment du premium, que ce soit comme t'as dit, comme ça a été annoncé, du coup le restaurant gastronomique. J'attends aussi des suites, mais des suites assez grandes de luxe. Pourquoi pas une piscine rooftop, c'est vrai que ça peut être sympa. Une belle vue, tout ça avec cocktail à volonté, un très très grand bar aussi. Ça c'est bien pour bien profiter entre potes. Et voilà, ouais, après c'est Louis Vuitton, donc comme t'as dit, il y a une boutique, ça peut-être pas. Mais ouais, j'attends au minimum ça dans un hôtel de luxe, tout simplement.
Bah top, je vois qu'on a les mêmes goûts. Et toi mon Julien?
Moi j'attends simplement d'être dans une bulle, tu vois, d'être reposé, de manger bien, de d'avoir un spa, tu vois, de me détendre et puis de sortir de là et d'être vraiment bien, quoi. C'est ça un hôtel de luxe. Si c'est pas ça un hôtel de luxe, bah c'est naze.
Le paradis sur terre, quoi.
C'est ça, exactement.
Allez, on reste à Paris. Après un des futurs plus beaux hôtels du monde, le meilleur restaurant du monde. C'est le guide culinaire La Liste, hein, qui a livré lundi son classement des meilleurs restaurants du monde. Et c'est le restaurant de La Monnaie, à Paris, du chef français Guy Savoy, qui décroche la première place avec la note de 99,5 sur 100, hein, quand même. Et ça pour la 9e année d'affilée, figurez-vous. Alors, aucun doute, on doit s'y régaler. Guy, si tu nous écoutes, mets-moi une table pour deux, pour ce soir 20h. Julien, quand t'imagines le meilleur restaurant du monde, ce serait quoi ton menu de rêve? Entrée, plat et dessert, c'est pour moi.
Ah, ce serait simplement, bah, je sais pas moi, une entrée copieuse, une bonne entrée qui te met bien directement dedans. J'ai pas vraiment d'idée en tête. En plat principal, mon plat préféré qui est le steak frites salade, mais ce serait du steak wagyu et ce genre de choses, tu vois, genre délicieux. Tu
monsieur est connaisseur.
Ah, il faut se mettre bien. Et en dessert, une bonne crêpe.
Ouais, très bon choix.
Donc un bon tiramisu, évidemment, un bon tiramisu, tu vois, mon préféré, un tiramisu.
Donc pour toi, mon Julien, pas de caviar, foie gras, homard, pas trop.
Je veux juste manger ce que j'aime bien, mais bien fait.
Mais moi, je ne dirais pas mieux que toi, Romain. Quelque chose à ajouter à ces délicieuses paroles. Délicieuses, hein, messieurs. Jeu de mots, hein.
Ah oui.
Ah, qui ne fonctionne pas comme la plupart de mes blagues. Romain, aide-moi. Aide-moi, Romain.
Bah moi, justement, je sortirais de mon confort culinaire. Ah. Genre, j'aurais envie d'avoir une entrée que je connais pas, goûter un plat que je connais pas, un dessert peut-être connu que je connais de nom, mais que j'ai pas goûté, vraiment découvrir de nouvelles saveurs, me faire voyager.
Donc toi, tu laisserais vraiment ça à l'inspiration du chef, quoi. Autrement dit, tu ferais confiance.
Ouais, vraiment, j'ai envie qu'il me fasse découvrir de nouvelles choses, justement, c'est pour en profiter de sortir un peu des menus plus traditionnels d'un restaurant dont j'ai accès.
Et ça, ça s'appelle une sage parole, hein. Franchement, autant je suis d'accord avec toi, mon Julien, mais ce qu'il vient de dire là aussi, il y a de la réflexion derrière. Écoutez, sinon, il faut savoir qu'en 2023, un autre guide culinaire, hein, le guide Michelin, hein, très connu, hein, lui avait retiré sa 3e étoile au restaurant de la Monnaie, bon, ce meilleur restaurant du monde. Alors, 3 étoiles au guide Michelin, c'est le meilleur classement qu'un restaurant peut avoir. Plus, ça n'existe pas. Alors, quand vous entendez un restaurant 5 étoiles, ça n'existe pas. En tout cas, pas dans ce monde-ci. Vous connaissez notre générosité, hein, dans 24e ciel. Si on peut vous apprendre quelque chose, on le fait avec plaisir. Le guide Michelin, il a été créé par la marque de pneus Michelin, hein, il y a plus de 100 ans déjà. Et à l'époque, ils avaient fait un guide qui était donné gratuitement aux automobilistes pour les encourager à voyager plus. Et comme ça, à acheter plus de pneus Michelin. C'est malin, hein. Et on, au départ, ça répertoriait les garages, les médecins, les plans des villes, etc. Puis, un peu plus tard, les hôtels et les restaurants. Et leur système de classement des restaurants avec des étoiles, ça veut dire une étoile, ça vaut le coup d'y aller. 2 étoiles, ça vaut le détour d'y aller, si vous passez dans la région. Et 3 étoiles, ça vaut le voyage pour y aller. Donc, au point de prendre sa voiture et de traverser le pays pour aller y manger. Intéressant, non?
Ouais, c'est super intéressant, ça je savais pas du tout.
Écoutez, si vous avez prévu, vous qui nous écoutez sur FMR, de vous faire plaisir à table ce week-end, dites-vous bien que la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Bon appétit. On reste à Paris en quittant maintenant l'hôtel de la Monnaie qui abrite, hein, comme vous le savez, le restaurant sacré le meilleur du monde, pour rejoindre le Palais Vivienne. Qu'est-ce qui habite, ou plutôt habitait au Palais Vivienne? Un indice: rendez les bijoux de la couronne.
Pierre-Jean Chalençon.
Mais
j'ai fait avec Jean-Pierre.
Demain, mon Julien. Ben écoutez, un point pour Julien. Ah. On va parler maintenant de Pierre-Jean Chalençon, collectionneur emblématique d'objets ayant appartenu à Napoléon et célèbre acheteur de l'émission télévisée Affaires conclues sur France 2. Alors, c'est une page douloureuse, hein, qui se tourne pour lui, hein. Le Palais Vivienne, son hôtel particulier de 506 mètres carrés en plein cœur de Paris, vient d'être vendu aux enchères pour 8 millions d'euros. Alors, c'est pour tenter de rembourser ses dettes. J'ai bien dit tenter, il faut dire que des dettes, il en a 9,4 millions d'euros. On est plutôt sur le haut de la fourchette. Alors, toujours pour tenter d'éponger ses dettes, il a également vendu sa célèbre collection d'objets ayant appartenu à Napoléon. Cette collection, qui était estimée à 6 millions d'euros, s'est vendue à 8 millions 7, hein, d'euros. Là aussi, lors d'une vente aux enchères. Évidemment, il ne faut pas être très malin pour comprendre que c'est pour lui un coup dur émotionnellement. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, hein, les réactions sont plutôt solidaires avec Pierre-Jean Chalençon, hein, qui reste un exemple de passionné d'art qui se bat jusqu'au bout pour que sa collection reste française. C'est un personnage haut en couleur, Pierre-Jean Chalençon. Et dans quoi, vous pensez, on pourrait le retrouver par la suite, mon Romain?
Je te vois bien dans une émission d'histoire, moi.
Je pense exactement la même chose que toi. Moi, je le verrais bien présenter des émissions d'histoire comme Stéphane Bern, quelque part. Je suis sûr qu'il aurait des tas de choses à nous apprendre en ajoutant sa fantaisie. Qu'est-ce que t'en penses, mon Julien?
Moi, je le verrais bien dans, bah, tout autre chose, dans un musée. Genre qu'il fasse son propre musée.
Mais c'est ce qu'il a tenté de faire avec le Palais Vivienne, dans lequel il avait exposé une très grande,
ouais,
partie de sa
plus
collection.
Petit, parce que 8 millions d'euros
pour moins de dettes, c'est ça?
Tu vois, c'est peut-être plus malin.
On va te suivre pour de meilleurs conseils et placements financiers, à ce que je vois. Hein.
C'est peut-être plus smart.
Ou alors un petit peu des deux, et à la télévision et dans un musée un petit peu à taille plus...
De faire une émission sur son musée. Très clairement, montrer ses pièces du musée, pouvoir le visiter et tout, il y a clairement quelque chose à faire. C'est juste que un palais, quoi. Un palais, j'ai pas diminué peut-être la taille.
Ça lui ferait du bien de t'écouter, à mon avis, hein.
Potentiellement.
On ne peut pas terminer les infos de la semaine sans faire un clin d'œil à l'icône du cinéma qu'est Brigitte Bardot. Elle est à nouveau hospitalisée et il y a un peu plus d'un mois, elle avait déjà dû quitter la Madrague, sa très célèbre propriété de Saint-Tropez, pour être admise à l'hôpital Saint-Jean de Toulon, près de Marseille, pendant près de 2 semaines. Selon les informations de Nice Matin, c'était pour subir une intervention chirurgicale dans le cadre d'une maladie grave. Souvenez-vous, elle avait même dû sortir du silence pour démentir des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux qui annonçaient sa mort. Sympa. Vous voulez que je vous dise ce qu'elle avait posté sur le réseau social X ?
Dis-le-nous.
Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition, mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. Fin de citation. Julien, je dois pas repréciser que je citais Brigitte Bardot, là.
Non, je pense qu'on a compris. T'as quand même ouvert les guillemets et tout, c'est quand même... voilà, quoi.
Parce qu'après, j'en entends, hein. Bon, au passage, je rappelle qu'elle est âgée de 91 ans. On t'adresse tous nos voeux de bon rétablissement, ma Brigitte. On t'embrasse de Belgique. Tiens, encore une star. C'est toi, mon Julien. Et tu vas maintenant nous parler... Technologia avec les nouveaux appareils de Steam. On t'écoute.
Eh ben écoutez, Valve, donc le créateur de la plateforme de jeux vidéo Steam, je pense que tout le monde connaît, au moins ont déjà entendu, c'est la plus grande plateforme actuelle. Et ben en fait ils ont déjà sorti, il y a déjà un petit moment, la Steam Deck, qui est un peu une version PC de la Nintendo Switch. Et du coup, vu que c'est un PC, bon, en fait, on a littéralement toutes les... On peut faire ce qu'on veut, quoi, globalement. Tu veux jouer à un jeu PS3 sur ta Switch? Bah non, tu peux pas. Mais si tu veux jouer sur le Steam Deck, tu peux clairement. Et en fait, ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils ont annoncé 3 nouvelles plateformes comme ça. Donc, une manette. Bon, une manette, c'est pas un PC, mais ça peut se connecter au PC et à toutes les plateformes qui vont sortir, d'ailleurs, en même temps, en soi. Ils peuvent varier et aller d'un à l'autre. Une console de salon aussi, super intéressant parce que du coup ça va un peu taper dans la fourmilière PlayStation, Xbox et Nintendo, mais bon, Nintendo c'est... ils sont de leur côté. et du coup, bah en fait on attend le prix de tout ça. Et
important, le prix.
On n'a pas encore le prix. Le truc c'est que ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur parce que... bah parce que si c'est plus cher qu'une console, c'est pas intéressant. C'est ça le truc. C'est qu'il faudrait que ce soit plus ou moins dans la même marge de prix, donc 500€. Et si c'est 500€, bah là, par contre, t'as un PC littéralement optimisé pour le jeu, que tu peux mettre dans ton salon et qui tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. Tu veux jouer à des jeux Nintendo, certes illégalement, mais tu pourrais le faire, tu vois. Et ce serait incroyable. Et avec tout ça, le dernier appareil qu'ils ont annoncé, un casque VR qui peut se jouer non pas branché, mais qui peut se jouer lui aussi dans la rue. Tu marches dans la rue, tu utilises ton casque VR, donc c'est lui aussi un PC. Tu fais ce que tu veux avec tes 4, donc ouais, techniquement 4 outils, donc Steam Deck, contrôleur, donc la manette, la Steam Machine qui est du coup la console de salon, et le casque VR. Tu peux tous les connecter, tout est optimisé, t'en fais ce que tu veux, et c'est signé Steam, signé Valve, et voilà.
En voilà des nouveautés.
Mais attendez.
Oh.
Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo, vous? Parce que c'est quand même une grosse question.
Personnellement, moi, pas du tout, mon Julien.
Mais est-ce qu'une machine comme ça t'intéresserait, pour te lancer dedans, peut-être?
Pourquoi pas? Tu sais, franchement, d'abord essayer. Si tu me la faisais essayer ou si tu me la prêtais, pourquoi pas? Mais je suis vraiment pas dans mon ADN, Julien.
C'est pas ton élément.
Non, du tout.
Et toi, Romain?
Moi, ouais, de ouf, hein. Bah déjà, pour répondre à ta première question, j'y joue un peu. Moins ces temps-ci, mais je suis quand même vraiment un fan de jeux vidéo. Plus dans Nintendo, mais c'est pas pour ça que je me ferme aux autres. Et moi, ça me tente bien, hein. Parce que je me dis, si c'est un peu moins cher tant qu'une PS5, bah pourquoi pas l'utiliser pour jouer à GTA 6. Toi, tu me disais que c'était compatible, qu'on savait jouer. Et puis je trouve, franchement, toute l'offre, toute l'opportunité qui donne, moi je trouve que c'est tentant. Hein.
Alors,
et ça a pas l'air d'être de la merde.
Petite info comme ça, GTA 6 comme GTA 5 sortira probablement un an après les consoles sur PC. Et la Steam Machine est quoi? Un PC, donc tu auras peut-être un petit délai d'un an. Ce qui m'étonnerait qu'on attende, pour le coup. Et la PS5, bah, c'est un peu trop récent pour être joué, mais ça arrive, attention.
Eh ben franchement, merci pour toutes ces explications. Merci et merci, mon Julien. Dans un instant, on vous donnera un fun fact sur les sucettes Choupa Choups. On revient tout de suite après une pause musicale, une fois de plus sans musique. A tout de suite sur FMR. On est de retour dans 24e ciel, merci d'être avec nous. On passe maintenant à Le saviez-vous. Julien, c'est quoi tes friandises préférées ?
Oh, bah moi j'aime bien les Haribo Pêche, j'aime bien ça. J'aime bien aussi les Scooby-Doo. C'est sympa les Scooby-Doo. Après, la réglisse. Non. Non.
Elle ne fait pas l'unanimité, hein, la réglisse. Hein.
Ah, ça non, hein, ça je pense, il y en a très peu qui nous écoutent qui aiment bien, mais en vrai de vrai, ça commence à remonter un peu, j'ai la pression, je sais pas, c'est bizarre.
Les goûts changent, et toi, mon Romain, qu'est-ce que t'aimes?
Ah, moi j'aime bien les Haribo Pêche aussi les Bubblies, c'est l'espèce de bouteille de coca acidulée, bleue et rose, là, je sais pas si vous voyez très bien.
Moi, eh bien, j'adore les sucettes Chupa Chups, et vous savez qui a créé le logo de Chupa Chups?
Bah. J'en ai aucune idée, non.
Du tout, hein.
Je me suis jamais posé la question d'ailleurs, pourtant on en voit partout.
Et oui, justement, vous savez que c'est l'un des logos les plus reconnaissables du monde, hein, comme celui de McDonald's, Coca-Cola, hein, je suis très sérieux. Hein. Eh bien, c'est Salvador Dali, hein, qui a créé le logo de Chupa Chups. Alors, je le rappelle, Salvador Dali, qui était un peintre espagnol extrêmement connu, mais aussi sculpteur et écrivain. Ce serait sur un coin de nappe qu'il a dessiné la célèbre marguerite, parce que c'est bien une marguerite, hein, le logo de Chupa Chups. C'était en 1969. Tout ça ne nous rajeunit pas. Alors il faut savoir qu'il n'a pas été payé, hein, pour le design de ce logo, mais il a demandé en échange une boîte de sucettes chaque jour pour le reste de sa vie. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Apparemment, un grand gourmand, ce Salvador. Peinture qui rime avec voiture. Romain, tu nous emmènes maintenant aux États-Unis, dans la ville du péché, pour nous parler du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. À toi de jouer, mon Romain.
Et oui, mais merci pour l'introduction, mon cher Charles. Aujourd'hui, direction le Strip de Las Vegas pour le dernier Grand Prix de la saison sur le sol américain. Il en restera deux après. Un circuit urbain de nuit impressionnant qui remonte notamment à pleine vitesse sur près de 2 km le Las Vegas Boulevard, où se trouvent les plus célèbres hôtels et casinos de la ville, comme le Bellagio et le Caesar Palace, pour ne citer que. Un week-end où bon nombre de célébrités partagent le paddock avec les pilotes. Hein. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse le plus, la course. Avec les trois premières séances d'essais libres, question de se réhabiliter au tracé avant les qualifications. La première séance a été menée par Charles Leclerc devant un surprenant Alex Albon, deuxième temps volant de sa Williams, et Yuki Tsunoda, troisième avec sa Red Bull. Lors de la deuxième séance d'essais libres, Lando Norris, leader du championnat, prend les rênes et signe le meilleur temps devant Kimi Antonelli qui avait réalisé un super week-end la semaine passée. Charles Leclerc prend la troisième place malgré un problème de boîte de vitesse en fin de séance. A noter que cette deuxième séance a dû être interrompue d'un drapeau rouge suite à un problème de plaque d'égout. Lors de la troisième séance, c'est au tour du coup de George Russell, le pilote Mercedes, de signer le meilleur tour juste devant Max Verstappen et Carlos Sainz. À présent, rentrons dans le vif du sujet avec les qualifications, une séance qui s'est déroulée sous la pluie, de quoi apporter de la complication à l'exercice, ce qui n'empêchera pas le leader du championnat, Lando Norris, de signer sa 7ème pole position de la saison après avoir réalisé un super dernier tour en Q3. Verstappen, de son côté, réputé pour être performant en conditions de pluie, s'élancera 2ème, de quoi continuer à laisser un léger espoir pour un 5ème titre, lui qui revient petit à petit sur les deux pilotes McLaren depuis la trêve estivale. Chez Ferrari, nouvelle séance à oublier, hein, pour le team. Charles Leclerc, bien que confiant lors des essais, est relégué à la 9ème place. Le Monégasque s'est une nouvelle fois plein d'un rythme inexistant sous la pluie. Une séance aussi très décevante pour Lewis Hamilton, bon dernier. Première fois que le pilote britannique se positionne en fond de gris, simplement en rythme pur. De quoi ne pas lui redonner confiance pour la fin de saison, lui qui n'a pour l'instant pas su répondre aux attentes depuis son arrivée chez les Rouges. Ce dimanche, un temps sec pour la course, course qui sera remportée par l'OVNI Verstappen, qui fera la différence au premier virage face à Norris. Et gérera parfaitement son rythme tout au long du Grand Prix. Le Néerlandais a encore toutes ses chances de devenir champion du monde, car malgré une deuxième place de ce bon Lando Norris et Piastri qui finit dans les points, les pilotes McLaren ont finalement été tous les deux disqualifiés quelques heures après le Grand Prix à cause d'une voiture non réglementaire. En effet, la MCL 39 a eu une usure excessive au niveau du fond plat, disqualifiant ces deux pilotes, relançant complètement le championnat. Suite à sa victoire, Verstappen donc revient à égalité de points avec Piastri, ayant tous les deux 366 points. Norris, quant à lui, reste à 390 points au championnat pilote et conserve une légère avance de 24 unités, de quoi enflammer cette fin de saison.
Merci Romain.
Avec plaisir Charles.
On passe maintenant à ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. Tu nous parlais de Lewis Hamilton, Romain. Il a une fondation qui s'appelle Mission 44, Mission 44, comme tu le sais, hein, qui lutte contre les inégalités scolaires et qui soutient les jeunes les plus vulnérables. Tu sais pourquoi il a choisi de soutenir cette cause ?
Parce qu'il est lui-même dyslexique.
Impeccable, bien. Un point pour Romain. On est à 1-1 entre vous les gars et Charles.
Je vais gagner.
Oui, moi toujours zéro si vous voulez. Et alors, il faut savoir hein, qu'il a adressé un message à sa nièce qui a récemment découvert qu'elle est aussi dyslexique. Attention, je vais citer ce qu'il lui a dit. Donc, ce n'est donc pas moi qui parle. Hein. Ton oncle l'est aussi. Regarde tout ce que j'ai pu accomplir avec ça. Sache que tu ne vaux pas moins, ton esprit fonctionne simplement différemment et tu vas faire des choses incroyables. Fin de citation. Ah, une très bonne nouvelle maintenant, direction l'Italie où les gros chiens peuvent désormais voyager en cabine avec leur maître dans les avions. Alors, ils doivent être placés dans des cages adaptées et sécurisées, à côté du hublot ou fixés au siège. Mais les compagnies peuvent bien sûr limiter le nombre d'animaux par vol et créer des zones tampons pour les passagers qui sont allergiques. Alors, c'est une mesure hein, qui facilite le transport des animaux de grande taille tout en garantissant leur sécurité pendant le vol. Julien, on en a vu hein, des cas d'animaux blessés ou traumatisés par leurs conditions de transport pendant un vol. Mais t'en penses quoi, toi, de cette nouvelle mesure ?
Je sais vraiment pas. Pour moi, déjà, un animal doit pas être dans un avion, mais en même temps, il faut bien le transporter, quoi, donc...
Voilà, toi, en tant qu'amoureux des animaux, tu veux parfois voyager avec ton animal, si tu fais une longue distance et pendant une longue durée, c'est bien d'avoir ton animal de compagnie avec toi.
Quitte à voyager avec et à être obligé de voyager avec, je préfère qu'il soit en confort, ça c'est sûr et certain. Je préfère qu'il soit peut-être avec moi dans l'avion plutôt qu'en loge, enfin dans les soutes, dans une cage bizarre quoi. Donc je préfère qu'il soit en confort, voilà. Maintenant, je suis pas trop chaud de déplacer des animaux personnellement.
Parce que pour les gens qui ne se séparent jamais de leur chat ou de leur chien, vraiment de pouvoir les conserver, de les prendre avec eux pendant un voyage, tu sais, tout ça peut franchement, selon moi, hein, lutter contre l'abandon. Parce que tu sais, je pense à cette dame là aux États-Unis qui n'avait pas pu embarquer avec son chien dans l'avion, et plutôt que de le confier à quelqu'un d'autre ou de changer ses plans, je comprends évidemment que c'est difficile, mais elle avait vraiment préféré l'abandonner, et elle a vraiment abandonné son chien. Elle est montée dans l'avion, elle est partie, et voilà, et c'est comme ça qu'on a entendu cette histoire, quoi. C'est dingue, non?
C'est franchement très con, quoi, j'ai envie de dire, parce que bah, déjà, on part du souci de base de l'abandon qui est de tu me prends pas un animal si tu ne peux pas t'en occuper. Là, je connais pas ces circonstances, donc j'imagine que j'espère en tout cas que c'était vraiment pas possible du tout de faire quoi que ce soit d'autre, mais en même temps on peut pas faire grand chose, Romain.
Ouais, mais c'est un chien, enfin un animal de compagnie, c'est comme un enfant, ça a des responsabilités.
Exactement.
T'abandonnerais ton enfant pour partir en vacances?
Exactement, c'est ce que je dis, de base ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? En fait, les gens sont cons. Les gens sont cons, c'est pas parce que tu dis que ton animal peut être avec toi, à côté de toi, sur un siège, que ça va pas les faire abandonner moins. Hein.
C'est pas moi qui dirais le contraire, mon Julien. On revient dans un instant dans 24e ciel, on parlera de Cécifoot avec Simon. Restez avec nous sur FMR, on revient tout de suite. On est de retour dans 24e ciel, merci d'être avec nous. Julien, tu laisses ta place à Simon qui vient nous parler de Cécifoot, le football joué par les aveugles et les malvoyants. Bonjour Simon.
Hello, hello.
Simon, pour te présenter, bon, déjà, on est amis tous les deux, tu as 20 ans.
Exact.
Tu habites Soumagne.
Tout à fait.
Et tu es passionné de football.
Voilà.
Simon, quelle est l'équipe que tu supportes?
Alors je vais te répondre très vite, c'est le Standard de Liège et rien que le Standard.
Ah, pas le RC Seraing, non?
Pas du tout, ne m'en parle pas.
Ah, c'est celui que je supporte. Bon, je te le dis vite, hein, comme ça, hop, c'est placé. On les embrasse d'ailleurs. Alors, mais Simon, toi, ce n'est pas au football tel qu'on le connaît hein, que tu joues, comme tu es atteint de cécité complète. Bon, autrement dit, tu es aveugle. C'est donc plus exactement au Cécifoot que tu joues. Et je sais que tu es très bon, hein, d'ailleurs. On est curieux d'en apprendre avec toi sur ce sport dont on entend parler de plus en plus. Il était temps d'ailleurs, hein, parce qu'il est joué depuis plus de 100 ans. Tout d'abord, est-ce que tu peux répondre à la question qu'on se pose tous? Comment vous arrivez à localiser la balle, les joueurs et les buts adverses?
Alors c'est une très bonne question. Donc il faut savoir que la balle contient un grelot. Comme ça, comme il n'y a pas de repère visuel, eh bien il y a un repère sonore. Donc c'est le grelot que la balle contient. Pour repérer le but adverse, il y a un guide offensif qui se met derrière le but adverse. et qui nous signale t'es à 12 mètres, t'es à 6 mètres, allez shot. Comme ça on sait dans quelle direction on doit shotter. Et il y a aussi le coach qui est au milieu du terrain qui peut donner des indications supplémentaires.
Ah top ça Simon, mais les règles du CC-Foot, est-ce qu'elles sont les mêmes que celles du football classique?
Je dirais que la majorité oui, le CC-Foot est quand même du football. Il y a bien sûr les cartons jaunes, les cartons rouges. Ce qui est un peu différent, c'est les pénalties. Il y a deux types de pénalties. Donc il y a les pénalties classiques quand tu fais une faute dans le rectangle. Et il y a les doubles pénalités. Ça, c'est quand l'équipe fait 5 fautes pendant une mi-temps. Mais l'autre équipe obtient une sorte de pénalty qu'on appelle une double pénalité.
Et par exemple, est-ce qu'il y a des fautes possibles ou du hors-jeu?
Alors, le hors-jeu est complètement supprimé dans le CC-Foot pour permettre un jeu plus fluide. Donc il n'est pas question de hors-jeu.
Ok, ok. Et vous portez un équipement spécial ou comme des protections pour éviter les blessures?
Alors pour les blessures, il y a des protèges tibia pour les matchs, comme les joueurs de football. Alors bien sûr, il y a la vareuse et il y a aussi un bandeau, ce qui permet d'obstruer la vue pour éviter toute triche. Vraiment pour ceux qui ont un petit reste de vision, pour ne plus qu'ils voient quoi que ce soit. Comme ça, ça permet d'être vraiment sur un même pied d'égalité.
Ah d'accord, d'accord. Mais pas de protection spéciale en cas de chute, quoi, par exemple?
Non, en cas de chute, non. Il n'y a pas plus de protection pour les blessures que dans le vrai football.
En cas de chute, c'est l'infirmerie, quoi. Autrement dit,
c'est
ça.
C'est l'infirmerie, c'est l'hôpital, si c'est plus grave.
Oh là 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 là. Mais sinon, j'ai cru comprendre, hein. Justement, je rebondis sur ce que tu disais avec les bandeaux pour les malvoyants et les non-voyants, les aveugles, quoi. J'ai donc cru comprendre qu'il y avait deux catégories en CC-Foot. Mais qu'est-ce que c'est la différence?
Alors, on a le CC-Foot B1, ça c'est celui que je pratique, c'est pour les aveugles, complet. Tandis que le B2, c'est pour les malvoyants, donc pour ceux qui ont un petit reste de vision. Le B1, donc celui que je pratique pour les aveugles, c'est le seul qui est accepté aux Jeux Paralympiques. Donc ceux qui jouent au CC-Foot B2, ils ne peuvent pas jouer aux Jeux Paralympiques. Alors ce qui se passe aussi, c'est que le CC-Foot B1, donc pour les aveugles, est plus reconnu et plus souvent pratiqué. Et les mi-temps lors de matchs sont un peu plus courtes que celles pour le CC-Foot B2. C'est-à-dire que dans le CC-Foot B1, donc il y a 20 minutes par mi-temps, tandis que dans le B2, là, on est plus à 25-30 minutes par mi-temps.
Mais Simon, un terrain de CC-Foot, c'est 3 fois plus petit qu'un terrain de football. Mais vous êtes combien dans une équipe, alors?
Alors, on est un gardien plus 4 joueurs de champ. C'est en général le gardien qui, lui, il faut préciser, il est voyant. On a 2 ailiers, voilà, 2 libéraux. Une pointe basse, donc, qui fait l'équivalent de défenseur. Et on a l'élément offensif, qui joue en haut, qui joue devant, qui correspond au poste d'attaquant.
Des petites équipes alors, vraiment de taille vraiment réduite.
C'est ça, c'est du 5 contre 5 si tu comptes le gardien. Si tu ne le comptes pas, c'est du 4 contre 4. Je pense que c'est comme au mini-foot.
La différence d'ailleurs entre un terrain de football et de CC-Foot, c'est que le terrain de CC-Foot, si je ne me trompe pas, fait la même taille qu'un terrain de handball, j'ai pu voir.
Oui voilà, moi je n'ai jamais pratiqué de handball, mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Les dimensions sont à peu près les mêmes. Et il y a des barrières, je pense aussi, pour un terrain de handball. Donc voilà, il y a des barrières de chaque côté du terrain de CC-Foot. Comme ça, ça empêche le ballon de sortir.
Ah, j'ai des bons renseignements. Alors, je crois que Romain va intervenir. Dis-moi, Romain.
Ouais, moi j'ai une petite question. Du coup, est-ce que niveau mise en place tactique, du coup, est-ce qu'elle se rapproche fort du football classique, plus football en salle, vu qu'il y a le même nombre de joueurs?
Je dirais plutôt, oui, que ça se rapproche du football en salle. Maintenant, moi, je ne suis pas un grand joueur. Hein. J'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Mais je pense que oui, ça correspond plus au football en salle. Tu peux faire des exercices tactiques, par exemple, essayer de se replacer le plus rapidement possible. Mais ça, on a des guides pour nous aider, pour nous donner des consignes.
Et Simon, est-ce qu'il y a des compétitions en CC-Foot?
Alors, il y a plusieurs compétitions au CC-Foot. D'abord, je vais dire qu'en Belgique, il n'y a pas de compétition belge, parce qu'il n'y a que 3 clubs belges. Il y a Charleroi, qui est le club le plus expérimenté de Belgique, il y a Anderlecht, et il y a le Standard, là où je joue. Donc, pas de compétition belge, mais par contre, il y a une équipe nationale belge qui tente de se qualifier pour des compétitions comme la Coupe du Monde, l'Euro, t'as aussi les Jeux Paralympiques, et t'as toutes deux compétitions de ce genre-là, un peu comme dans le vrai football, finalement. Maintenant, notre équipe nationale belge n'est pas très très forte, elle est en, en construction, en progression, mais voilà, ça va être intéressant de la suivre dans les prochaines années.
Ouais, carrément, on espère qu'elle va s'améliorer, quitte à... on espère vraiment devenir la meilleure du monde. Et est-ce qu'il existe un joueur de Cécifoot qui est vraiment particulièrement connu, qui serait comme un Zidane du Cécifoot ou un Mbappé du Cécifoot?
Ben ça tombe bien, si tu me parles de Mbappé, c'est justement un joueur français. Il s'appelle Frédéric Villeroux, il est capitaine de l'équipe nationale de France en Cécifoot. Il a un palmarès assez costaud, notamment plusieurs tournois. En termes de médailles, il a eu en 2012 la médaille d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres. Et en 2024, il a gagné les Jeux Paralympiques, donc la médaille d'or. Et donc, il joue dans le club de Bordeaux. Il est, je dirais, joueur-entraîneur, c'est le plus expérimenté du club.
Moi, du coup, j'avais une petite question par rapport au Cécifoot, parce que c'est quand même, le foot est quand même un sport de contact. Comment ça marche niveau faute? Parce que vous voyez pas, mais comment ça marche niveau faute? Est-ce que le contact est autorisé, même pour le marquage, un peu comme ça? Comment ça se déroule concrètement?
Alors, là, c'est vraiment comme dans le vrai football, pratiquement. Le contact est bien sûr autorisé. Enfin, le contact dans une certaine mesure. Comme dans le vrai football, au final. Tout geste qui peut mettre en danger un joueur est sanctionné. Carton jaune, carton rouge, c'est la même chose. Il faut savoir que dans le Cécifoot, tu peux faire une sorte de marquage à la culotte, quoi, une sorte de pressing. Donc voilà, tu peux toucher pas trop fort le joueur et pas avec les mains, mais limite t'appuies ton bras dans le dos de l'autre joueur. Comme ça, tu vois, tu le presses et tu t'essayes de l'empêcher d'avoir le ballon. Mais par exemple, tu peux pas commencer à lui tirer le maillot. Ça, tirage de maillot, comme dans le vrai football, c'est sanctionné. Et aussi une faute ou un élément important, tu dois faire voy quand tu n'as pas de ballon. Comme ça, l'adversaire sait que tu n'as pas le ballon et surtout, tu sais mieux te repérer sur le terrain et savoir où est l'adversaire. Donc, voy quand tu n'as pas le ballon. Sinon, ça, c'est sanctionné, c'est une faute et ça peut faire office de carton jaune. Et je rappelle que deux cartons jaunes est égal à une rouge.
Et du coup, tu viens de dire voy, mais ça vient d'où? Ça signifie quoi? Enfin, ça n'a pas l'air d'être du français.
Alors, je crois que ça vient de l'espagnol et ça veut dire j'y vais. Voilà, comme ça l'adversaire, j'y vais. Pourquoi? Parce que l'adversaire, j'y vais à la rencontre, je vais aller chercher le ballon. Tu vois, voy. Comme ça, c'est un terme que tu utilises dans tous les pays où c'est si foot. Voy. Un terme universel.
Un terme espagnol parce que le Cécifoot justement qui est né il y a une centaine d'années en Espagne justement et puis après qui s'est fort développé au Brésil, donc j'imagine en effet que c'est ça mon Simon, hein, l'origine de Voy, hein, comme tu le dis. J'ai une chose à te dire, merci beaucoup mon Simon, sans mauvais jeu de mots, on y voit beaucoup plus clair maintenant. Oh Simon, je sais que tu aimes l'humour et que t'es le premier justement à en faire. Et tu sais, au point qu'on supportera l'équipe nationale belge de Cécifoot au prochain Jeux Paralympiques de Los Angeles si elle se qualifie en 2028. Merci Julien, Romain, Simon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à 16h dans 24e ciel sur FMR. Bon week-end.